Vous écoutez France Culture. Plus que l'heure. Bonjour Thomas Cluzel.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Et nous reviendrons bien sûr sur ce 8e samedi de mobilisation des Gilets jaunes émaillé de heurts. Ce matin, le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux a dénoncé, je cite, une capitulation morale et intellectuelle d'une grande partie de l'opposition dans cette crise. De son côté, Stanislas Guérini, le nouveau délégué général de La République En Marche, a lui plaidé pour la création d'un fichier recensant les casseurs. Invité du journal dans quelques minutes, Fabien Desage, maître de conférence en sciences politiques.
Le cardinal archevêque de Lyon, Philippe Barbarin, comparaît à partir d'aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Lyon pour non-dénonciation d'agression sexuelle.
Et un procès que les parties civiles entendent utiliser pour faire bouger le regard de l'Église française sur les questions de pédophilie. Philippe Barbarin sera jugé jusqu'à mercredi aux côtés de 5 autres responsables du haut clergé.
Au Gabon, 4 des 5 officiers putschistes qui s'étaient emparés ce matin du siège de la radio nationale ont été arrêtés.
Le cinquième est toujours en fuite. Les soldats putschistes entendaient ainsi exprimer leur doute sur la capacité du président Ali Bongo a continué à assumer sa charge. Il faut dire que le chef de l'État, victime d'un AVC, est absent du pays depuis maintenant plus de 2 mois. Enfin, un bâtiment de la marine américaine est passé ce matin à proximité d'un archipel contesté de la mer de Chine méridionale, revendiqué par Pékin. Et ce, alors que les discussions commerciales doivent reprendre entre négociateurs des 2 premières puissances économiques de la planète. Enfin, 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Avec la question de l'exil et celle des migrants, l'Union européenne face à cette question-là, on va en parler dans notre émission avec l'historien italien Enzo Traverso qui réédite aujourd'hui La pensée dispersée, l'un de ses livres phares aux éditions Ligne et qui sera donc notre invité à partir de 12h55.
Merci, à tout à l'heure. En choisissant d'occuper des ronds-points, les Gilets jaunes imaginaient-ils que ces nouveaux lieux de la contestation préfiguraient à eux seuls un mouvement sans fin et dont plus personne désormais ne semble savoir comment s'échapper. Samedi dernier, la première mobilisation de l'année et la 8e en presque 2 mois aura, une fois de plus, mis le gouvernement au défi de sortir de cette impasse. Et à ce titre, force est de constater que l'exécutif semble bien démuni. Stéphane Robert, bonjour.
Oui, bonjour Thomas.
Pour trouver une issue à la persistance d'un affrontement sans bornes ni limites, les seules portes ouvertes aujourd'hui par le gouvernement ressemblent surtout et de plus en plus à des issues de secours, condamner d'une part les actes de violence et condamner d'autre part la capitulation des partis d'opposition.
Oui, du côté de l'exécutif, il y a depuis le début de la nouvelle année un discours de fermeté qui s'affirme en même temps qu'une volonté d'en finir avec la contestation des Gilets jaunes et de passer à autre chose. C'est Emmanuel Macron qui a fixé le cap à l'occasion des vœux adressés aux Français le 31 décembre. Il y a d'un côté, avait dit le chef de l'État, une contestation sociale qui a existé et qui a été entendue. Et puis d'un autre côté, des expressions de haine de la part d'une foule haineuse qui ne sont pas tolérables. On voit bien dès lors le discours qui est en train de se mettre en place. Il y aurait d'un côté ceux qui restent dans le champ républicain, dans le cadre de la loi, et ceux qui en sortent ou qui en sont déjà sortis. Et c'est dans ce camp-là, dans le camp de ceux qui sont sortis du champ républicain, que le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, a rangé ce matin la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. C'était au micro de nos confrères de France Inter.
Cela, moi je le crois, ont quitté le champ républicain.
Pour
Jean-Luc Mélenchon, entre les 2 tours de l'élection présidentielle, je le rappelle, n'a pas été capable de prononcer le nom d'Emmanuel Macron et d'appeler à un vote clair en sa faveur contre le Front National. Quand on est incapable d'avoir la moindre réaction, lorsque des bâtiments publics, lorsque des parlementaires, lorsque des institutions sont mises en cause par des factieux et des violents, oui, on a quitté le champ républicain.
Ces propos faisaient suite aux déclarations de Jean-Luc Mélenchon hier après les manifestations et les nouvelles violences qui ont eu lieu samedi. Le chef de file de la France insoumise avait parlé d'un admirable peuple indomptable. Ce qu'on peut distinguer à travers ces accusations et cette confrontation, c'est la difficulté qu'il y a, voire l'impossibilité à installer un débat politique. Ceux qui, dans l'opposition, cautionnent ou continuent à cautionner l'action des Gilets jaunes donnent le sentiment de justifier les violences et ceux qui les condamnent s'inscrivent à contrario dans le sillage du gouvernement et ils ont dès lors bien du mal à exister politiquement. C'est pour ça qu'il y a eu, au bout du compte, très peu de réactions ou de commentaires politiques après les manifestations de samedi dernier. En dehors de la France insoumise, on n'entend pas la gauche. La droite également figure au registre des abonnés absents et le Rassemblement national lui aussi fait profil bas, sachant que pour sa part, il est en train d'engranger des points en vue des élections européennes de mai prochain. Ce qui se passe, c'est que pour une partie de la population, celle qui continue à manifester, la défiance vis-à-vis de la classe politique est telle qu'il n'y a plus de discussion possible et la confrontation qui en découle avec pour mot d'ordre Macron démission est de plus en plus violente. et les différentes forces politiques n'ont pas d'autre choix que de se positionner pour, contre ou de se taire. C'est comme si aujourd'hui il n'y avait plus de discussion, plus de débat possible. Soit vous êtes pour, soit vous êtes contre, dans le camp du bien ou dans le camp du mal. Et on ne voit pas bien comment en sortir. Dès lors, cette situation est d'assez mauvais augure pour le grand débat national qu'a prévu d'organiser le chef de l'État Emmanuel Macron à partir de la semaine prochaine.
Merci Stéphane Robert. Alors on l'a encore vu samedi dernier, l'impasse dans laquelle s'est enlisée cette crise des Gilets jaunes se double aujourd'hui d'une dynamique de radicalisation, laquelle entraîne chacun des camps dans une escalade de plus en plus dangereuse. Symbole de cette fracture, deux vidéos choquantes auront notamment saturé les réseaux sociaux tout le week-end. Celle d'un manifestant faisant reculer les CRS à coups de poing d'une part, et celle d'un officier de police promu de la Légion d'honneur frappant des manifestants d'autre part. Maureen Suignard, bonjour.
Bonjour.
48 heures plus tard, en sait-on davantage sur chacun de ces deux hommes?
Alors, l'identité du premier se précise. Selon le syndicat des commissaires de la police nationale, il s'agit d'un ancien boxeur professionnel. Il serait même champion de France des lourds légers en 2007. Sur une vidéo largement relayée, on voit donc cet homme vêtu de noir qui parvient à faire reculer les gendarmes mobiles usant de coups de poing parfaitement maîtrisés. La scène se déroule en plein cœur de Paris, tout près du musée d'Orsay, sur la passerelle Léopold Sédar Senghor. La Fédération française de boxe n'a d'ailleurs pas tardé à dénoncer dès ce week-end un comportement inacceptable et honteux de l'un des siens. Le parquet de Paris vient de préciser que l'homme soupçonné s'est présenté à la police et qu'il vient d'être placé en garde à vue. Deux plaintes ont été déposées par les gendarmes. Et preuve que les violences ne sont pas à sens unique, à Toulon, c'est un commandant divisionnaire de police qui est pointé du doigt. Et de nouveau, ce sont des images très violentes. On voit d'abord l'officier donner plusieurs coups de poing au visage d'un homme placé contre un mur avant que d'autres fonctionnaires ne s'interposent. Puis c'est au tour d'un manifestant muni d'un gilet jaune contre le capot d'une voiture d'être pris à partie. L'auteur présumé de ces violences n'est autre qu'un commandant divisionnaire, un homme qui fait partie de la toute dernière promotion de la Légion d'honneur du 1er janvier 2019. Hier, une jeune femme a d'ailleurs déposé plainte. Elle affirme que le commandant lui a donné un coup sur la tête, lui valant 2 jours d'ITT et 10 jours de minerai. Ce dernier dément formellement. Le préfet du Var a saisi l'IGPN, l'inspection générale de la police nationale, et cela alors que le procureur de Toulon avait indiqué ne pas vouloir ouvrir de procédure, jugeant que le commandant avait agi proportionnellement à la menace.
Merci Maureen Suignard. Et puis pour continuer d'évoquer cette crise des Gilets jaunes, invité de ce journal, Fabien Desage en direct et en duplex de chez nos confrères de France Bleu Nord. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence en sciences politiques à l'Université de Lille 2, co-auteur également de La politique confisquée, sociologie des réformes et des institutions intercommunales. Puis avec moi en studio pour vous interroger, Rosalie Lafarge du service politique de la rédaction. Bonjour Rosalie.
Bonjour.
Une première question, monsieur Desage. Ce mouvement des Gilets jaunes ne relève-t-il pas au fond d'un paradoxe? D'un côté, l'expression d'un désir farouche de participer activement à la politique, mais désir aussitôt annihilé dès lors qu'il repose sur un désaveu massif de l'offre et du système politique.
Oui, alors je pense que c'est pas forcément une contradiction en fait. Précisément, il y a chez beaucoup des participants de ce mouvement une défiance vis-à-vis du système représentatif, de la confiscation en fait de cette représentation politique par des groupes sociaux notamment qui sont très très bien représentés et d'autres qui le sont beaucoup moins. Et donc la demande de participation assez logiquement en fait, elle s'accompagne aussi d'une remise en cause du système de représentation tel qu'il fonctionne aujourd'hui, c'est-à-dire globalement assez mal, avec une incapacité à entendre notamment des voix plus discrètes dans la société, et notamment ceux qui subissent en l'occurrence le plus les politiques publiques et les réformes telles qu'elles ont été mises en place ces dernières décennies.
Monsieur Desage, si on revient aux origines de ce mouvement, il a commencé avec des revendications sur des mesures très précises, très pratiques, la taxe sur l'essence, entre autres. Rapidement, on est passé à autre chose, à des revendications beaucoup plus institutionnelles. Est-ce que cela surprend le chercheur que vous êtes ?
Alors forcément, ça surprend au premier abord parce qu'on est plus habitué à constater des formes de démobilisation, notamment des classes populaires, à souligner des formes d'incompétence pour ce qui relève de la connaissance du champ politique, de ses codes, de ses règles, etc. Et là, on voit un mouvement qui, assez rapidement, place parmi ses priorités en fait des réformes institutionnelles et une critique de la représentation. Et en même temps, là encore, c'est ce qui fascine peut-être le chercheur, c'est la cohérence en fait des deux. dans la mesure où on pourrait dire que les politiques injustes, les politiques inégalitaires qui sont dénoncées, elles tombent pas du ciel. Elles sont le résultat d'un système politique représentatif qui lui-même permet pas l'expression en fait d'un certain nombre d'intérêts. Et donc on pourrait dire qu'il y a une grande cohérence à ne pas se contenter de critiquer des mesures dont on peut imaginer d'ailleurs que si le système reste inchangé, elles reviendront par la fenêtre alors qu'elles sont sorties par la porte d'ici quelques mois, mais précisément à interroger les raisons pour lesquelles ces politiques aujourd'hui sont inégalitaires. Et les raisons pour lesquelles les politiques publiques aujourd'hui sont foncièrement inégalitaires, elles se trouvent en partie dans notre système représentatif et dans les dysfonctionnements démocratiques.
Et il y a, Stéphane Robert en parlait tout à l'heure, une espèce de classification établie par l'exécutif entre d'un côté les gilets jaunes qui restent dans le champ républicain, entendons ceux qui veulent bien discuter, et de l'autre côté les manifestants. Est-ce qu'il y a là, pour vous, une incompréhension de la classe politique ?
Alors oui, c'est sûr que quand on entend ce qui s'apparente parfois au cri d'orfraie hein, des ministres aujourd'hui, ceux qui qualifient notamment d'ultra-violence hein, certaines pratiques. Bon, j'ai l'impression que ça traduit aussi une forme de perte de sang-froid hein, ou de raison gardée vis-à-vis de ces événements. J'inviterai notamment les ministres qui avancent ces propos à lire le travail de Gérard Noiriel où ils constateront qu'en fait dans l'histoire des mouvements populaires cette dimension violente est toujours présente et qu'en l'occurrence elle est de faible intensité dans le mouvement des gilets jaunes aujourd'hui si on le regarde dans la longue histoire, et que ce qui surprend au contraire par son intensité c'est la violence de la répression en fait de ce mouvement qui atteint un seuil inédit hein, et ça c'est constaté par tous les chercheurs et les collègues qui sont spécialistes notamment du maintien de l'ordre qui soulignent à quel point cette violence est inédite. Donc c'est sûr que cette division entre d'un côté ce qui serait les bons gilets jaunes et de l'autre les mauvais, on voit bien d'ailleurs qu'elle finalement, elle n'atteint pas vraiment les principaux destinataires, hein, qui se sentent juste un peu plus méprisés ou qui se sentent déconsidérés et qui prennent parfois pour eux, d'ailleurs, les critiques qui sont adressées aux manifestants. Donc c'est une stratégie qu'on peut comprendre, hein, qu'on comprend bien les ressorts, mais dont je doute qu'elle soit efficace.
Mais ce dont il est question finalement, Fabien Desage, c'est vraiment la façon dont on est gouverné. Donc finalement, la sortie de crise, elle ne peut venir que de grands changements institutionnels.
Oui, j'ai l'impression, quand on regarde, en fait, il y a deux points qui ressortent des revendications et qui sont liés, en fait, qui sont directement associés. C'est la critique de la représentation telle qu'elle fonctionne, du présidentialisme, qui se concentre dans la personne d'Emmanuel Macron. Hein, c'est la situation de l'arroseur arrosé, c'est-à-dire celui qui a construit tout autour de son image, qui finalement devient naturellement la cible principale des critiques. Et le deuxième point, c'est la question des inégalités, encore une fois. Hein, la critique des inégalités, de l'injustice, en fait, de l'action publique. Et il faut aujourd'hui, en fait, on ne peut qu'associer les deux. Et donc, effectivement, la sortie de crise, eh ben, elle passera probablement, alors peut-être pas par une démission d'Emmanuel Macron, mais au minimum par la restitution d'un certain nombre de pouvoirs, en fait, hein, vers des assemblées parlementaires et vers d'autres instances. Pour paraphraser un député, je pense qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de rendre l'ISF, mais peut-être de rendre les moyens de faire et de défaire l'ISF, c'est-à-dire de rendre des moyens de participer à des formes de décision qui, aujourd'hui, effectivement, ont été globalement confisquées par l'exécutif. Hein. Ce n'est pas du tout un propos polémique que je prononce, mais c'est le constat de tous ceux qui s'intéressent et qui travaillent sur les institutions politiques de la Ve République.
Et en quelques mots, Fabien Desage, pour terminer, est-ce qu'à votre avis on en prend le chemin de ces grands changements institutionnels ? Je pense évidemment au grand débat national qui doit s'ouvrir la semaine prochaine.
Eh bien, c'est en tout cas l'annonce, mais c'est sûr que ça va être d'autant plus compliqué que l'expérience de ces dernières années, voire décennies, c'est celui d'une déception en fait démocratique. Et donc forcément, les citoyens et les gilets jaunes en particulier auront une grande méfiance vis-à-vis de ce grand débat. On voit bien que ce grand débat, la première chose que font les ministres sur les antennes, c'est de le cadrer, d'en limiter la portée, voire éventuellement de dire qu'il va aboutir à ce qui était déjà prévu dans la réforme institutionnelle d'Emmanuel Macron. Et donc on voit bien comment il apparaît dès le départ comme une forme de restriction et de cadrage qui, en quelque sorte, démobilisera probablement et démotivera beaucoup d'y participer. Hein. La condition de la participation politique, c'est le sentiment probablement qu'on va être entendu, c'est très banal, qu'on va pouvoir collectivement éventuellement avoir une parole qui va être entendue. Et c'est de ça dont il faut assurer en quelque sorte ceux qui vont participer. Et on en est encore très très loin.
Merci Fabien Desage, maître de conférence en sciences politiques, d'avoir été en direct et en duplex de chez nos confrères de France Bleu. Je rappelle le titre de votre ouvrage paru en 2011 aux éditions du Croquant, La politique confisquée, sociologie des réformes et des institutions intercommunales. Et merci également à vous Rosalie Lafarge. Philippe Barbarin a-t-il suffisamment agi en apprenant le passé pédophile d'un prêtre 4 ans après la révélation d'un scandale retentissant au sein de l'Église catholique? Le cardinal Barbarin et 5 autres ex-responsables de son diocèse sont jugés à partir d'aujourd'hui à Lyon pour non-dénonciation d'agression sexuelle sur mineurs. Les juges du tribunal correctionnel devront dans un premier temps aborder les questions de procédure avant de traiter le fond de l'affaire jusqu'à mercredi. Les précisions de notre envoyé spécial Antoine Marette.
Le cardinal Barbarin traverse la salle d'audience une 15 minutes avant l'ouverture du procès. Son visage impassible, presque résigné, affronte le crépitement des flashs qui semblent presque indifférents aux 5 autres prévenus, également poursuivis pour non-dénonciation d'agression sexuelle sur mineurs. Cette première matinée est consacrée aux exceptions de nullité et irrecevabilité. Les avocats de la défense s'interrogent sur la consignation que doivent verser les plaignants, une somme de 500 euros. Or, pour chacun d'entre eux, c'est une association, La Parole Libérée, qui a versé l'argent. Une association qui n'a pas la qualité pour se porter partie civile. Elle s'est donc portée partie civile par personne interposée, contournant ainsi les règles de procédure pénale, selon les avocats. Pour la défense, c'est un argument fort d'irrecevabilité. On a mené une action collective par le truchement d'une association, s'indigne un avocat. Un autre ajoute qu'il ne s'agit pas d'une action individuelle contre son client, mais d'une action contre l'Église, et de conclure, on a voulu faire péter le diocèse de Lyon. C'est au tour de l'avocat de Philippe Barbarin de prendre la parole. On a évoqué ce procès comme un débat citoyen, mais est-ce le lieu? Ce tribunal doit-il devenir une troisième chambre après le Sénat et l'Assemblée nationale, s'interroge-t-il. Il ajoute, tuer un homme, ça n'est pas faire avancer une cause, c'est tuer un homme. Accuser un innocent, ça n'est pas faire avancer une cause, c'est accuser un innocent.
C'était le 24 mai 2014, Mehdi Nemmouche ouvrait le feu dans le hall d'entrée du musée juif de Bruxelles, tuant 4 personnes, une tuerie qui restera comme la première attaque commise en Europe par un combattant djihadiste de retour de Syrie. Le tueur a comparu ce matin devant la cour d'assises de la capitale belge pour une nouvelle audience préparatoire 3 jours avant l'ouverture de son procès. Il encourt la réclusion à perpétuité. Le procès devrait durer jusqu'à fin février. Hasard du calendrier, c'est aujourd'hui le 4e anniversaire de l'attentat qui a fait au total 12 morts au siège du journal satirique de Charlie Hebdo. Depuis ce matin, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, et son secrétaire d'État sont sur place pour rendre hommage aux victimes en présence de leur famille, mais aussi de la ministre de la Justice et la maire de Paris. Tous se rendront ensuite devant la plaque commémorant le décès du lieutenant de police Ahmed Merabet sur le boulevard Richard Lenoir. Enfin, la délégation aura rendez-vous devant l'hypercachère dans le 20e arrondissement de Paris où 4 clients ont été tués le lendemain. Je vous propose d'écouter Gaëlle Renaud. Elle est l'épouse de Michel Renaud, tué dans l'attentat de Charlie Hebdo. Il était venu participer ce jour-là à la conférence de rédaction. Elle répond à Fiona Mogadam.
C'est important, ce sera toujours important toute ma vie, puisque en tuant mon mari, ils ont détruit ma vie, l'enfance de mon enfant qui est toute jeune, elle a perdu son papa à 10 ans. Je serai toujours là, je serai à toutes les commémorations, je suis très bouleversée à chaque fois, c'est très difficile. Nous vivons la souffrance tous les jours. C'est l'infini, voilà. Et cette manifestation, elle n'apaise pas, mais ça veut dire que les Français n'oublient pas. Ils n'oublient pas que les autres Français ont été tués, que la France a été attaquée. Et effectivement, au début, c'était Charlie Hebdo, après Bataclan, après Nice, après les prêtres. En fait, quand je viens ici, je pense à toutes ces personnes. Et je me dis que c'était de très belles personnes, ils n'ont rien fait. Il vivait pleinement comme mon mari, parce que c'était un homme remarquable.
Gaëlle Renaud, l'épouse de Michel Renaud, tuée dans l'attentat de Charlie Hebdo, elle répondait à Fiona Mogadam. Au Gabon, si la situation semble désormais sous contrôle, le message entendu tôt ce matin sur les ondes de la radio-télévision nationale n'en reste pas moins inquiétant. Dans une apparente tentative de coup d'État, un groupe de militaires a appelé la population à se soulever. Des coups de feu ont par ailleurs été entendus autour de la radio-télévision, au moment même donc où les 5 officiers putschistes faisaient diffuser leur proclamation sur un boulevard du centre de la capitale. Valérie Crova, bonjour.
Bonjour.
Alors, 4 des 5 mutins ont depuis été arrêtés. Et surtout, il faut rappeler que cette tentative de putsch intervient alors que le président président, Ali Bongo, est absent du pays depuis plus de 2 mois.
Et c'est d'ailleurs le principal argument avancé par ces putschistes qui se réclamaient d'un mouvement patriotique des jeunes des forces de défense et de sécurité du Gabon, un mouvement qui était jusqu'à présent inconnu. Dans un message diffusé et lu par un militaire entouré de 2 hommes armés, les mutins appelaient les Gabonais à se soulever. On en écoute un petit extrait.
Le mouvement demande à tous les jeunes des forces de défense et de sécurité et à toute la jeunesse gabonaise de se joindre à nous en exécutant à la lettre et dès cet instant même les mots d'ordre suivants. Que tous les hommes de rang et sous-officiers actuellement en service dans les casernes se procurent par tous les moyens une arme et des munitions. Le jour tant attendu est arrivé. Ce jour où l'armée a décidé de se mettre aux côtés de son peuple afin de sauver le Gabon du chaos.
Alors, en réalité, depuis qu'Ali Bongo a été victime d'un AVC en octobre dernier en Arabie Saoudite, la Cour constitutionnelle a transféré une partie de ses pouvoirs au Premier ministre et au vice-président. C'est illégitime, illégal pour ces mutins qui appelaient à la formation d'un conseil national de restauration en vue d'une transition démocratique. Hospitalisé dans un premier temps à Riyad, Ali Bongo poursuit depuis sa convalescence au Maroc. C'est depuis Rabat qu'il s'est exprimé pour la première fois à l'occasion du nouveau an dans une vidéo où il reconnaissait souffrir de problèmes de santé tout en expliquant qu'il s'en remettait. C'était une façon aussi de couper court aux nombreuses rumeurs qui ont couru depuis 2 mois au Gabon, on l'a dit mort à plusieurs reprises. Alors il faut rappeler enfin que le clan Bongo dirige le Gabon depuis près d'un demi-siècle. Ali Bongo est arrivé au pouvoir en 2009 après la mort de son père Omar. Il a été réélu en 2016 avec moins de 6000 petites voix d'avance sur l'opposant Jean Ping dans une élection entaché de fraude.
Merci Valérie Crova. En mer de Chine méridionale, c'est peu de dire que l'incident tombe plutôt mal à l'heure où les États-Unis et la Chine entendent désamorcer la guerre commerciale qui depuis l'an dernier déchire les 2 premières économies de la planète. Ce matin, Pékin a vivement critiqué la marine américaine pour avoir fait croiser un navire de guerre à proximité d'un archipel contrôlé par Pékin. Alors ça ne devrait pas pour autant remettre en cause la reprise aujourd'hui des discussions commerciales bilatérales, lesquelles devraient également permettre de faire le point sur les récents engagements pris par Donald Trump et Xi Jinping en marge du dernier sommet du G20. Les explications à Shanghai de notre correspondante Angélique Forget.
Après plusieurs échanges par vidéoconférence, c'est le premier face-à-face entre Chinois et Américains depuis que les deux puissances ont accepté une trêve de 90 jours sans s'imposer mutuellement de nouveaux tarifs douaniers. Depuis la rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping en marge du sommet du G20 en Argentine, le 1er décembre dernier, la Chine et les États-Unis sont entrés dans une phase de négociation en vue d'une sortie de crise. Pendant 2 jours, ils vont tenter de mettre en œuvre le consensus obtenu il y a 1 mois. Il comprend notamment la suspension par la Chine de ses surtaxes sur l'automobile américaine et la promesse de plusieurs commandes de soja américains. Washington, de son côté, se retient d'augmenter ses surtaxes de 10 à 25% comme initialement prévu. Pour les deux puissances, il y a urgence à mettre fin à cette guerre commerciale. L'économie chinoise s'essouffle, pénalisée par les mesures punitives américaines, et les entreprises américaines, elles, dans le même temps, souffrent du ralentissement de la consommation chinoise. C'est le cas de Starbucks ou encore d'Apple, la marque à la pomme pour pourtant très populaire en Chine, a annoncé la semaine dernière une baisse de ses ventes dans l'Empire du Milieu et a dû revoir à la baisse ses prévisions de revenus, fragilisant ainsi les grandes places financières internationales.
Le conseiller pour la sécurité nationale de la Maison-Blanche, John Bolton, est attendu aujourd'hui en Turquie ce week-end. En visite en Israël, il a précisé que certaines conditions devront être réunies avant le départ des troupes américaines de Syrie et notamment la sécurité de leurs alliés kurdes. Ces derniers craignent en effet que le retrait américain ne les laisse démunis face à la Turquie, laquelle ne cache pas son intention de lancer une offensive pour éviter la formation à ses portes d'un embryon d'État kurde. Enfin, l'armée israélienne a lancé plusieurs raids aériens la nuit dernière contre des positions du mouvement islamiste Hamas après le tir d'une roquette de la bande de Gaza vers l'État hébreu. Par ailleurs, l'autorité palestinienne a annoncé avoir ordonné à ses fonctionnaires de se retirer du poste frontière de Rafah, ce qui devrait donc entraîner la fermeture du seul point de passage entre l'enclave palestinienne et l'Égypte. On termine avec un mot rapide de météo. Le ciel restera gris et bas sur la plupart des régions. En revanche, sur le relief des Pyrénées, les Alpes, les hauteurs du Massif central, le Languedoc-Roussillon, PACA et la Corse, là, le temps restera sec et bien ensoleillé. Quant aux températures, elles seront comprises cet après-midi entre 1 et 15 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Demergue. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.